France Inter.
Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, une usine prise pour cible.
Un groupuscule d'extrême gauche revendique, je cite, le sabotage de l'usine allemande de Tesla ce matin au sud de Berlin. Un pylône électrique a été incendié. Les pertes se chiffrent en centaines de millions d'euros d'après le géant américain. Les salariés sont au chômage technique. Nous sommes à Berlin dès le début de ce journal.
Et les autres titres, Kevin ?
Emmanuel Macron refuse ce qu'il appelle l'esprit de défaite à propos de la guerre en Ukraine. Le président de la République qui s'exprime depuis Prague où il est en visite aujourd'hui. Nous serons au procès Polanski, le cinéaste attaqué en diffamation par une actrice qui l'accuse de viol. Gyrophare, ambulance et 200 personnes mobilisées pour un exercice attentat grandeur nature. Ça se passe en Savoie. Et puis, mais où est Châteauroux, la ville, site olympique du tir, n'est pas sur l'affiche officielle des JO dévoilée hier.
Au sommaire du 18-20, ce soir, nous allons aux États-Unis alors que les Américains votent lors du Super Tuesday. On va pas s'éterniser sur l'affiche prévisible du duel de novembre, mais se demander plutôt jusqu'à quel point les démocrates ont de quoi s'inquiéter. D'après notre invité Yasha Munk, ils ont de quoi s'inquiéter. Ce soir, nous sommes aussi en Israël avec une association israélo-palestinienne qui continue à fonctionner malgré tout. Bien sûr, c'est pas facile, mais cette association a résisté au 7 octobre et on vous y emmène. Vous verrez que le président argentin a suspendu toute une agence de presse. Pourquoi la Transnistrie continue à être surveillée de très près? Vous ferez connaissance avec Stoyan qui est bulgare dans Caroline au pays des 27. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne avec cette question. Faut-il faire mincir la planète et donc la France aussi? Lutter contre l'obésité, oui, se méfier des méthodes miracles aussi. On en parle ensemble à partir de 19h20.
France Inter.
Tesla constate donc ce soir l'étendue de son manque à gagner.
Et c'est bien le portefeuille du fabricant américain de voitures électriques que visaient ceux qui ont incendié ce matin un pylône électrique situé près de l'usine Tesla au sud de Berlin, la seule en Europe dont sortent 500 000 véhicules chaque année. Bonsoir Sébastien Baer.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Berlin. C'est un groupe d'extrême gauche, Sébastien, qui revendique clairement un sabotage.
Oui, dans sa lettre rendue publique cet après-midi, le groupuscule baptisé Vulcain affirme être à l'origine de l'incendie. Il s'en prend à Tesla qui mange de la terre, des ressources et des hommes pour produire, je cite, 6000 SUV, machines à tuer et monster trucks par semaine. L'attaque survient alors que le fabricant souhaite agrandir son usine pour doubler sa production et atteindre 1 million de véhicules par an. Le projet prévoit notamment l'abattage d'une centaine d'hectares de forêts de pins. Les opposants estiment qu'il met en péril l'alimentation de la région en eau potable. Ce soir, les 12 000 salariés de Tesla sont au chômage technique. La production du modèle Y, le SUV électrique, ne devrait pas reprendre avant plusieurs jours. Le titre Davis à la bourse de Francfort. Le groupe estime le préjudice à plusieurs centaines de millions d'euros. Elon Musk, le patron de Tesla, a réagi sur sa plateforme X. Arrêter la production de véhicules électriques plutôt que de véhicules à combustible fossile est extrêmement stupide, écrit-il.
Et Sébastien, c'est un ennui de plus hein, pour Tesla qui est en proie à de nombreuses difficultés ces dernières semaines.
Ah oui, Kevin. Premier épisode, début février, le groupe a dû suspendre son activité pendant 15 jours. Les attaques contre les cargos en mer Rouge ralentissaient l'approvisionnement en matières premières. Deuxième épisode, il y a deux semaines, les habitants de Grünheide, la commune où est implantée Tesla, ont voté contre l'extension de l'usine. Troisième épisode, jeudi dernier, quand une petite centaine de militants écologistes a installé un campement à 300 mètres de l'usine, avec des cabanes perchées dans la forêt de pins pour empêcher le déboisement. Cela commence à faire vraiment beaucoup pour Tesla, d'autant que s'ajoute à cela l'arrivée de nouveaux concurrents asiatiques, ce qui remet en question la première place du groupe sur le podium des fabricants de voitures électriques.
Les précisions de Sébastien Baer en direct de Berlin pour France Inter.
En République tchèque, Emmanuel Macron reste ferme face à la Russie.
Le chef de l'État s'est entretenu avec le président Peter Pavel, allié indéfectible de l'Ukraine depuis le début de cette guerre, une semaine après avoir affirmé que l'envoi de troupes au sol ne doit pas être exclu. L'exécutif avait ensuite précisé qu'il ne s'agissait pas de fantassins, mais par exemple d'équipes de déminage. Bonsoir Maxence Lambrec.
Bonsoir.
Envoyé spécial de France Inter à Prague, vous suivez ce déplacement d'Emmanuel Macron qui assume donc pleinement ses propos, Maxence.
Oui, avant de retourner en Ukraine, sans doute la semaine prochaine, Emmanuel Macron veut enfoncer le clou, faire vivre ce débat sur l'envoi de troupes. Pas question de reculer d'un pas. À ses yeux, écarter cette question, c'est faire preuve de lâcheté.
Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre ? Pouvons-nous nous détourner, considérer que les choses peuvent continuer à se jouer ? Je ne crois pas. Et donc, c'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement.
il espère avoir raison avant tout le monde, tacle une nouvelle fois l'Allemagne engagée dans une bataille d'égo dans le soutien à l'Ukraine. Pour lui, les réactions hostiles à ses propos de lundi dernier révèlent une faiblesse.
Si chaque jour nous expliquons quelles sont nos limites face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde. Pas chez nous.
Pas chez nous. Emmanuel Macron rappelle que les menaces de Vladimir Poutine ne datent pas d'hier. Après l'envoi de chars, d'avions, d'obus, il a toujours brandi l'arme nucléaire. Ça ne doit pas nous intimider. Persuadé que ce débat, c'est ce dont l'Europe a besoin aujourd'hui.
Et Maxence, est-ce que tout cela est de nature à faire bouger les lignes? Comment a réagi le président tchèque?
Eh bien, il l'a rejoint, reconnaissant qu'on ne peut pas se contenter du soutien actuel. Je pense vraiment, dit-il, que nous pouvons rechercher d'autres formes d'aide, de solutions, ne pas nous limiter là où nous n'avons pas à le faire. Petr Pavel précise toutefois qu'envoyer des forces spéciales, des troupes combattantes, constituerait pour lui une ligne rouge. Il ouvre la porte à des missions de formation sur place. Mais à court terme, au-delà de ce débat, il attend un chèque de la France, potentiellement plusieurs centaines de millions d'euros pour aller acheter des munitions en dehors de l'UE, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, en Inde. Il assure que 800 000 obus y sont stockés, jusqu'ici réticents à sortir des frontières européennes. Emmanuel Macron admet que cette initiative est utile, sans dévoiler encore le montant de son chèque.
Maxence Lambrec à Prague pour France Inter avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. À Gaza, 8000 patients ont besoin d'une évacuation pour être soignés correctement. C'est ce qu'affirme l'Organisation mondiale de la santé ce soir, précisant que 3/4 de ces blessés sont des victimes de la guerre entre Israël et le Hamas. Aujourd'hui, des avions cargo américains ont largué l'équivalent de 36 000 repas au-dessus de l'enclave palestinienne assiégée où la famine est quasiment inévitable, selon les Nations Unies. Et l'on en vient à ce chiffre glaçant. En Iran, les autorités ont exécuté au moins 834 personnes en 2023. C'est du jamais vu depuis 2015, d'après le rapport annuel des ONG Iran Human Rights et Ensemble contre la peine de mort. 2023 marqué notamment par le mouvement Femme, Vie, Liberté en Iran. Valérie Crovin.
Il a fallu un travail minutieux et risqué, car fait en grande partie depuis l'Iran, pour arriver à cette conclusion. La République islamique est le premier pays exécuteur au monde, à défaut de connaître les chiffres pour la Chine. Trafic de drogue, blasphème, meurtre, adultère, espionnage, autant de prétextes utilisés pour faire taire toute forme de contestation, surtout depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Raphaël Chenuilazan, le directeur d'Ensemble contre la peine de mort.
C'est toujours un message qui est fait passer à la population iranienne, c'est-à-dire qu'on a la capacité à vous exécuter, quelle que soit la cause, quelle que soit la situation.
En Iran, la peine de mort est instrumentalisée à des fins politiques. Il y a moins d'exécutions avant des élections, puis elles reprennent à une cadence infernale quand les regards de la communauté internationale se tournent ailleurs. Mahmoud Amiri Mogadam, directeur d'Iran Human Rights.
Avant le 7 octobre, nous avions en moyenne 2 exécutions tous les jours. Immédiatement après le début de la guerre à Gaza, le nombre d'exécutions a grimpé en flèche, passant à 3 ou 4 par jour. Et en même temps, il n'y a pas eu de réaction internationale.
Dans la préface du rapport remis en 2019, un homme écrivait « L'Iran et son peuple, héritiers d'une longue et glorieuse histoire, méritent mieux que ce bilan sanglant. » Cet homme, c'était Robert Badinter.
Valérie Crova de la rédaction internationale de Radio France.
Une nouvelle enquête ouverte à l'encontre de Gérard Depardieu.
Une enquête ouverte par le parquet de Paris pour agression sexuelle. Ça fait suite à la plainte déposée par une décoratrice qui fait état d'attouchement en 2021 sur le tournage du film Les Volets Verts. L'acteur était et déjà visé par 2 enquêtes. Une pour viol dans le cadre de laquelle il est mis en examen. Une autre pour agression sexuelle sur un autre tournage. Elle accuse Roman Polanski de viol. L'actrice britannique Charlotte Lewis attaque le cinéaste en diffamation parce qu'il a qualifié ses accusations, je cite, d'odieux mensonges. Le procès a lieu aujourd'hui à Paris où réside Roman Polanski qui n'est pas présent au tribunal judiciaire. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Vous suivez cette audience, l'actrice, elle, est bien là.
Oui, je n'avais jamais imaginé qu'on puisse ne pas me croire à la barre. Charlotte Louis, silhouette longiligne, habillée de noir, débite son récit à toute vitesse, comme si après autant d'années, les mots se bousculaient pour sortir. Car à l'exception d'une amie de son école, Charlotte Louis n'a presque pas parlé du viol dont elle accuse Roman Polanski, pas plus qu'elle n'a porté plainte. À 16 ans, je savais que ce qui m'était arrivé n'était pas bien, mais je ne savais pas mettre un mot dessus, explique l'actrice de 56 ans aujourd'hui, lorsqu'elle finit par le faire publiquement. Nous sommes en 2010, les faits étaient prescrits, poursuit-elle. L'histoire ne s'arrête pas là pour autant, car à la même époque, Charlotte Louis découvre un article dans lequel elle est présentée comme une ancienne prostituée. « Cela a ruiné ma vie et celle de mon fils. Il n'était plus invité aux anniversaires », explique l'actrice en larmes. Alors, quand Roman Polanski brandit cet article pour discréditer ses accusations qualifiées d'odieux mensonges, « c'est la goutte de trop », explique celle qui veut aujourd'hui laver son honneur et regrette d'avoir parlé publiquement. « Aujourd'hui, si une femme me demande si elle doit révéler avoir été violée, lâche même Charlotte Louis à la barre, je lui dirais non, tire un trait sur tout ça et continue ta vie. » Sinon, on va te détruire.
Charlotte Pierret, service police-justice de France Inter, en direct du tribunal judiciaire de Paris. Les deux ouvriers blessés hier sur un chantier de la future ligne C du métro de la métropole de Toulouse sont hors de danger ce soir. Ils ont fait un saut de 10 mètres dans le vide au moment de l'accident. Hier, une partie d'un viaduc en construction s'est effondrée. Un ouvrier est mort. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires.
Chambéry, théâtre d'un important exercice grandeur nature aujourd'hui.
Une simulation d'attentat au cœur de l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc, complètement à l'arrêt durant 4 heures ce matin. L'objectif, c'était de tester la coordination, la rapidité d'intervention des forces de l'ordre et des secours. Un exercice saisissant qu'a suivi Corentin Vahu.
Tout est fait pour que la scène ressemble à un vrai attentat. Deux personnes armées de fausses kalachnikovs entrent dans l'aéroport. Les figurants se couchent par terre, simulent une blessure ou se cachent. Leur rôle est défini par une fiche qu'ils portent autour du cou, raconte Mélissa.
Je devais jouer le rôle d'une personne qui grimaçait, qui avait une blessure par le bas à l'abdomen. Et en attendant, fallait attendre les secours.
Rapidement, les forces de l'ordre interviennent. D'abord, les douaniers déjà sur place à l'aéroport, puis les gendarmes du PSIG et le GIGN. La dernière étape, c'est la prise en charge des blessés à l'extérieur de l'aéroport. Au total, près de 200 personnes ont été immobilisées sur l'exercice. Ça fait beaucoup de gens à coordonner en même temps et forcément il y a eu quelques couacs dans le scénario. Un figurant qui rigole, un gendarme mal placé dans une zone pas encore sécurisée, mais ce n'est pas le plus important pour François Ravier, préfet de la Savoie.
On essaye de faire les choses dans la situation la plus réelle possible. Ça nous permet de faire face à de tels événements.
C'est aussi pour ça que le dispositif FR Alert a été testé. Il permet d'envoyer des consignes de sécurité sur tous les téléphones à proximité de la zone. Un type d'alerte que l'État veut normaliser en cas d'attentat ou de catastrophe naturelle.
Le reportage de Corentin Vahu, France Bleu, Pays de Savoie. Si ça vous ennuie, sachez que vous n'êtes pas les seuls à ne pas pouvoir utiliser ce soir Facebook ou Instagram. Meta, la maison mère de ces réseaux sociaux, reconnaît qu'il s'agit d'une panne mondiale. Le porte-parole de Meta indique que le groupe travaille sur la résolution de l'incident. Un message qu'il a été obligé de poster sur X, un autre réseau social concurrent.
Plus de présentatrices que de présentateurs en plateau en 2023.
Oui, c'est une première depuis que l'ARCOM analyse la représentation des femmes à la télévision et à la radio et c'est l'un des enseignements de ce rapport annuel publié depuis 2016 par le régulateur des médias en collaboration avec l'INA. Bonsoir Alexandra Hacoun.
Bonsoir.
En 8 ans, donc, le nombre de femmes sur les plateaux a sensiblement augmenté.
Oui, puisqu'elles sont aujourd'hui présentes à 43%. On était à 38% en 2016. La progression est donc là, mais on peut faire mieux. On doit faire mieux, insister le président de l'ARCOM, Roch-Olivier Maistre.
Les femmes constituent plus de la moitié de notre population. Et il faut que cette réalité, d'une façon ou d'une autre, se reflète à l'écran ou à l'antenne. Je le dis très simplement, la parité n'est pas un objectif, elle est tout simplement un devoir.
En attendant, dans quel rôle les trouve-t-on présentatrices? Là, c'est très bien, 51% de femmes. C'est en effet du jamais vu. Invitées, expertes, politiques, là on est en dessous, 43% seulement de femmes, mais avec une progression de 13 points en 8 ans. Le vrai bémol est du côté du temps de parole, 34% seulement, en baisse même de 2 points depuis 2022. Des résultats globalement meilleurs dans le public que dans le privé. Deux secteurs tirent l'ensemble vers le bas. La politique, 33% de femmes en plateau, pour seulement 26% du temps de parole. Et surtout, surtout le sport, 22% de présence de femmes en plateau, mais seulement 11% du temps de parole, avec des hommes qui peuvent sans problème commenter les compétitions féminines, quand l'inverse reste encore très marginal, à peine 15%. Bref, des chiffres à méditer en cette année olympique, on va forcément pouvoir mieux faire.
Alexandra Akoun, spécialiste média de France Inter.
Il y aura un peu plus de 300 000 spectateurs sur les quais de Seine le 26 juillet.
Oui, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, justement, Gérald Darmanin a confirmé ce nombre ce soir, après avoir baissé la jauge pour des raisons de sécurité. Deux tiers de ces spectateurs bénéficieront de billets gratuits. Si on ajoute ceux qui regarderont passer les péniches depuis les immeubles ou encore les fan zones dans la capitale, le ministre de l'Intérieur estime à près de 600 000 le nombre de personnes à gérer pour les forces de l'ordre ce soir-là. Les Jeux, dont l'affiche dévoilée hier, ne plaît pas à tout le monde. À des élus de droite et d'extrême droite d'abord, qui politisent la chose, regrettant l'absence de la croix au sommet des Invalides, ou encore du drapeau tricolore, une cocarde bleu-blanc-rouge étant pourtant bien présente sur cette fresque aux mille et un détails. Et puis il y a ces villes oubliées, qui sont pourtant des sites olympiques. Lille, qui accueillera le basket par exemple, Lyon ou Nantes, où il y aura du football, et puis Châteauroux, où se déroulent les épreuves de tir sportif. Pourtant, Emeline Ferry, avec vos confrères de France Bleu Berry, vous avez bien cherché.
On y a passé du temps, on a regardé tous les moindres détails, et il y en a des détails sur ces affiches. 40 000 personnages, des clins d'œil partout, des références à chaque coup de crayon. Les monuments de Paris sont là, le port de Marseille dans un coin, la fameuse vague de Tahiti juste au-dessus, mais aucune trace, vraiment aucune, du Centre National de Tir Sportif de Châteauroux. On est très vexés, et le maire aussi, Gilles Averrousse.
On a cherché aussi, effectivement, on n'a pas trouvé. C'est une petite déception, je vous l'avoue. C'est quand même, c'est vrai, un peu frustrant de voir que Châteauroux n'est pas sur l'affiche de Paris 2024. Bon, il y a plus grave que ça dans la vie.
Il en a quand même parlé au préfet Thibault Langsade.
Il me l'a montré sur son iPhone, et donc on a recherché où était Charlie. Et là, non, il va falloir qu'il remette Châteauroux. C'est navrant. Bon, voilà, il faut continuer à faire un peu de communication.
Allez, on se rassure en se rappelant que c'est ici que sera décernée la toute première médaille des Jeux. Le Berry aura donc bien son heure de gloire. Et puis, en cherchant un peu plus attentivement, on a quand même trouvé un symbole de l'épreuve qu'on va accueillir au milieu de l'affiche paralympique. Si vous regardez un peu vers la gauche, vous verrez un tireur en fauteuil roulant qui vise une cible.
Emeline Ferry, France Bleu Berry, et puis le comité d'organisation des Jeux Olympiques tout de même a répondu à Châteauroux en parlant. Elle explique que le dessinateur a proposé une interprétation, je cite, artistique, joyeuse, légère, d'une ville-stade réinventée, et qu'il aurait été difficile d'intégrer les 40 sites de compétition sur une seule et même affiche. Un huitième de finale, retour de Ligue des Champions qui se joue en Espagne. Voilà de quoi faire peur aux supporters du Paris Saint-Germain traumatisés depuis la remontada du Barça. C'était en 2017. Ce soir, l'adversaire des Parisiens, vainqueur 2-0 à l'aller, s'appelle la Real Sociedad. Coup d'envoi à 21h à San Sebastián.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'allais chercher votre nom. Rappelez-moi, Kevin Dufresne, comment vous vous appelez déjà?
Tous les soirs, pourtant.
Tous les soirs. C'est dingue. Allez, vous reviendrez tout à l'heure. Là, je m'en souviendrai dans Un jour dans le monde et dans Sous les radars, un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur euromaster.fr.
Bonsoir Marie-Pierre Planchon. C'est bon, je l'ai fait exprès. Moins d'averses, Élodie Calac, moins d'averses demain.
Exactement, elle s'espace ce soir. Alors demain, le réveil sera encombré avec quelques gouttes des frontières du nord au bassin parisien. Un peu plus de pluie de la Bretagne au nord de Midi-Pyrénées, de la Franche-Comté au nord des Alpes également. Ce sera de la neige en montagne vers 700 mètres. L'après-midi, quelques averses essentiellement au nord de la Loire. Toujours un petit peu de neige sur les massifs de l'Est. Toujours pas mal de nuages également, mais quelques rayons de soleil appréciables, plus généreux vers le massif central et le Lyonnais. Et puis pour avoir du soleil dès le matin, direction le sud de l'Aquitaine jusqu'au Roussillon, à la Provence, à la Côte d'Azur, mais avec du vent.
Et il fera plus frais le matin.
Oui, retour de quelques gelées sur le nord-ouest, Champagne-Ardenne, près du relief, et puis l'après-midi, 9 à 13 degrés sur une grande partie nord-est du pays, et 13 à 17 près de l'océan, sur le sud-ouest et en Méditerranée.
Élodie Calac de Météo France qui revient tout à l'heure après le journal de 19h, bien sûr.